Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nicolas, qui est donc président Foire au vin et fromage. Vous habitez Compiègne, c'est bien ça ?
Tout à fait. Tout à fait.
Et je rappelle, le conseil départemental de Loire-Atlantique a fait retirer des panneaux qui sensibilisaient sur les dangers de l'alcool au volant. Et effectivement, vous êtes plutôt du côté des vignerons.
Alors je serais plutôt du côté des vignerons, même si je respecte largement le grammage autorisé. Mais je trouve quand même qu'actuellement, avec la pénurie de commandes, de travaux, ce week-end, il y avait à Compiègne la foire au fromage et au vin qui a encore attiré des dizaines de milliers de personnes comme chaque année, qu'on avait dû décaler. Je peux vous dire quand même que les vignerons, les petits producteurs venus des quatre coins de France, ont bien travaillé. Je trouve que le département a bien fait d'aider une matière économique, matière aussi touristique pour un département. C'est important pour un département qui produit du vin que d'avoir une image de marque.
Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il faut sensibiliser les dangers de l'alcool au volant. Au volant. Et c'était cela, hein, les panneaux. C'était vraiment très précis. C'était l'alcool au volant. Alors, plus que moi d'entamer la conversation avec vous, je vous propose peut-être de le faire avec Serge, qui est gérant d'une auto-école et qui habite Cherbourg et qui est confronté peut-être à l'alcool au volant. Non pas à titre personnel, bien sûr, Serge, mais avec des jeunes conducteurs que vous entraînez.
Bah nous, on travaille sur la prévention. Bonjour à Pascal et à l'équipe, et puis à la personne dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Donc effectivement, nous on travaille sur l'alcool et sur les...
Ah, je vous entends plus. Serge. Non, là, il y a eu des petites coupures. Je pense que vous parliez d'ailleurs de Laurent Tessier, que vous avez eu peut-être au téléphone tout à l'heure.
Voilà.
Oui, avec qui nous travaillons quotidiennement ensemble.
Vous m'entendez bien, là ?
Là, je vous entends mieux.
D'accord. Donc, je disais... alors, je comprends la position du monsieur en face, et vous l'avez bien dit. Voilà, il est partie prenante dans cette affaire-là. Moi, l'alcool, j'ai pas de souci avec l'alcool. On peut boire, hein, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'alcool et le volant. Hein. La loi E20 a été faite pour, justement, faire attention à tout ça. Elle est dévoyée depuis des lustres.
Pourquoi elle est dévoyée
Bah parce que vous allez dans des grandes surfaces, vous achetez 24 bières, on vous en offre 6. Vous avez des moins 50% ou des moins 30% sur des bouteilles d'alcool dans les grandes surfaces. Tout ça devrait être interdit. Vous avez de la pub 4/3 sur l'alcool. Enfin, je veux dire, ça va. Donc, pour une fois qu'un département faisait de la prévention, je trouve que c'était quand même intéressant. Alors, la prochaine fois, ça va être quoi? La dépénalisation de l'alcool? C'est-à-dire, on fera comme les stupéfiants, 200 euros d'amende quand vous êtes alcoolisé au volant?
Mais, je veux dire, oui, arrêter, c'est pas pénalisé, l'alcool. L'alcool au volant est évidemment sanctionné.
Mais voilà, mais, tout à fait.
Mais c'est pas sur pénalisé la voie publique, de l'alcool.
Je le rappelle. Je le rappelle aussi, sur la voie publique, hein, vous pouvez être aussi pénalisé si vous êtes sur la voie publique. L'alcool
c'est
est un fléau.
Hein.
L'alcool, oui, mais ça arrive. L'alcool est un fléau. Moi, j'ai été agressé dans mon auto-école par une personne totalement alcoolisée et tout ça. C'est un fléau, ça crée des dizaines de morts sur la route, des centaines de morts sur la route.
C'est un fléau, c'est toujours pareil. Moi, j'aime pas ces mots-là. L'alcool est un fléau si on ne respecte pas les doses qu'il faut prendre.
Mais justement, en quoi? Moi, j'aimerais bien entendre l'explication du conseil général, enfin du conseil départemental, sur pourquoi ils ont fait ça. Enfin, ils dépensent de l'argent pour faire une campagne de sensibilisation et après ils reviennent dessus. Enfin,
c'est Nicolas, qui est président Foire au vin, vous répond et entame le débat avec vous.
Oui, il est vrai qu'il y a toujours l'aspect sécuritaire par rapport. À l'aspect médical de la chose. Mais quand même, un département qui peut s'enorgueillir que d'avoir des vignobles, que d'avoir des châteaux, que d'avoir un aspect touristique, il faut quand même que le français puisse vivre. On auto-autorise.
Ah, là aussi, un petit problème de liaison. Il est 13h07, on va marquer une première pause.
Il n'y a pas de problème de liaison entre nous, Pascal?
Non, il n'y en a pas, ni de problème d'alcool. Mais c'est vrai que c'est un sujet, comme tous les sujets d'ailleurs, il faut apporter de la nuance. Un verre de vin, ça peut être agréable. Et effectivement, c'est aussi l'ADN de la France. Sa qualité des vins, les alcools également. Mais d'ailleurs, ça serait bien d'ailleurs d'être à zéro. On pourrait être à zéro quand on prend le vélo. Quand on prend la voiture. Puisque si vous buvez, vous ne conduisez pas. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et je salue Laurent Tessier pour notre premier sujet, le conseil départemental qui a fait retirer des panneaux qui sensibilisaient sur les dangers de l'alcool au volant. On pourra évoquer tout à l'heure la deuxième vague. Est-ce une réalité ou pas?
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et voilà un sujet qui vous fait réagir sur cette décision du conseil départemental de Loire-Atlantique. Coup de gueule de Fabien, le pouvoir des lobbies est préoccupant. L'argent a plus d'intérêt que la vie, regrette Gildas. Jean-Marie fait une proposition sur la page Facebook. Les vignerons devront indemniser dès qu'il y aura un accident en Loire-Atlantique. Élise trouve au contraire que les vignerons sont stigmatisés avec ce dessin d'un verre de vin au milieu des vignes. Il n'y a pas que des alcooliques. Faut-il vraiment des panneaux pour arrêter la consommation d'alcool, s'interroge Jacqueline. Et de toute façon, rajoute Geneviève, les automobilistes qui boivent trop et prennent le volant n'ont rien à faire des messages de prévention. Ils pensent toujours qu'ils maîtrisent la situation.
On a écouté déjà Serge et Nicolas. Nous allons écouter Thierry à présent. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Votre avis sur ce conseil départemental de Loire-Atlantique?
Je suis pris entre deux feux quelque part. Ma première réaction était de dire ouais, bon bah ok, si les gens veulent boire, c'est leur problème. Ce qui me gêne quelque part, c'est que d'un côté, on a les politiques qui, eux, sont là pour protéger la société. Ils sont au service du peuple. Et donc, leur devoir, c'est de mettre tout en œuvre pour protéger la population. Faire un rappel sur la consommation excessive d'alcool au volant, ça n'a rien de choquant, ça n'a rien d'extraordinaire. En dehors du fait que moi, à 60 ans, ça me choque un petit peu, qu'il faut rappeler constamment, ne bois pas. Ça me fait penser, ça m'évoque une réflexion, comme si on disait aux Français, mouche ton nez, dis bonjour à la dame, fais pas pipi le long du mur. Il faut leur rappeler que boire au volant, c'est dangereux. On le sait. Mais alors pourquoi ils continuent? Pourquoi y a-t-il encore autant de morts par accident?
On boit quand même pas au volant, mais on boit avant de... c'est ennuyeux. Mais c'est boire ou conduire, il faut choisir. Exactement. Donc alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose...
Ça, c'est la première chose. Et là, je dis, les hommes politiques, ils doivent intervenir pour protéger la population, le peuple, puisqu'ils sont au service de la population. S'ils ont été élus, c'est pour protéger la population, pour être à leur service. Et ensuite, d'un côté, je comprends les vignerons qui ont envie de voir leur chiffre d'affaires. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'on les stigmatise, que dans cette période de Covid, etc., etc., ils ont besoin de redresser leur chiffre d'affaires, comme toutes les entreprises. Ok, moi, ce qui me gêne quelque part, c'est que au nom de quoi le chiffre d'affaires va-t-il être plus important que les vies? Si toutefois enlever ces panneaux va augmenter la consommation d'alcool, chose dont je ne suis absolument pas convaincu. Et là, je me dis, la réflexion, c'est que font nos hommes politiques? Est-ce qu'ils sont là pour protéger le peuple ou est-ce qu'ils ont peur des lobbies, quels qu'ils soient? Est-ce qu'ils ont peur pour leur réélection future? Et auquel cas, on va céder à ceux qui pourraient financer leur campagne électorale, quelle qu'elle soit, et à ceux qui vont avoir un poids important dans la région, dans la nation, dans l'Europe, etc., etc. Et là, ça m'interpelle. C'est plus là que ça m'interpelle. C'est plus le poids que pourraient avoir les lobbies, quels qu'ils soient, vis-à-vis de nous.
Ah, l'impression que vous avez perdu sur la femme. Mais on a compris l'essentiel, effectivement, de ce que vous vouliez nous dire. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a fait réagir. Curieusement, d'ailleurs, c'est le premier sujet qui a fait réagir aujourd'hui. L'autre sujet étant les tenues, avec ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. Donc, nous allons parler de ce qui est une tenue républicaine.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On va peut-être réécouter ce que disait Jean-Michel Blanquer ce matin, parce que vous connaissez, on a eu ce débat, hein, je crois que c'était jeudi ou vendredi, ce qu'on appelle le crop top, to crop, ça veut dire couper, et top, c'est un t-shirt qu'on coupe. Donc les jeunes filles, parce que, ou les jeunes hommes d'ailleurs, arrivent à l'école avec le nombril à l'air, avec un t-shirt qui est donc coupé. Est-ce que c'est décent, pas décent? Écoutez le ministre de l'Éducation nationale.
L'école n'est pas un lieu comme les autres, vous n'allez pas à l'école comme vous allez à la plage, ou comme vous allez en boîte de nuit. Vous allez à l'école dans une tenue correcte. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous.
Alors ça, c'est une parole à l'ancienne. Il n'y avait même pas besoin de le dire jadis. On ne va pas à l'école comme on va à la plage. Et aujourd'hui, il y a un mouvement de gens qui disent « Mais attendez, je m'habille comme je veux. Si je veux aller en short et en tongs à l'école, au nom de ma liberté individuelle, j'y vais. » Alors, est-ce que ce débat, les auditeurs vont le trancher ? Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous habitez La Rochelle.
Oui, c'est ça.
Qu'en pensez-vous ?
Oui. Alors, écoutez, moi, j'ai eu une mauvaise expérience la semaine dernière. C'est pour ça que je vous appelais. Donc, j'ai une fille, j'ai deux enfants, dont une qui a 13 ans, qui est en quatrième, dans une école privée à La Rochelle, catholique, je précise.
Oui.
Il faisait très chaud la semaine dernière. Bon, malgré ça, elle est allée en pantalon, mais elle avait un débardeur. Je précise, débardeur, pas décolleté, enfin classique, quoi, un débardeur classique. Durant cette journée-là, elle a eu 5 professeurs. Les 4 ne lui ont rien dit. La 5e lui a dit devant tout le monde, ça aussi, ça c'était bien, qu'on voyait trop de peau. Donc elle était priée de se couvrir.
Mais alors, c'est un homme ou une femme qui lui a fait cette remarque ?
Une femme.
Et c'est une femme d'une génération, peut-être une professeure qui avait plus de 50 ans ou plus de 60
oui,
ans
manifestement. Mais vous savez, j'ai 53 ans. Hein.
Oui.
Donc on est a priori de la même génération. Non, là, ce qui m'a un peu...
Et qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là ? Vous appelez la direction de l'école ?
Non, j'ai pas appelé parce que je voulais pas qu'on mette un peu l'accent sur elle. Bon, en plus là, on était effectivement, c'était cette fameuse journée où toutes les gamines ont fait volontairement, ont mis des t-shirts assez courts, etc. Ce qui est pas le cas de ma fille du tout, parce que je suis contre ce genre de choses personnellement. Non, là, ce qui m'a un petit peu interrogée, c'est que moi, quand elle est partie le matin, je trouvais que sa tenue était adéquate pour aller à l'école. Et quand elle est revenue le soir, on m'a content ça, ben je me suis dit est-ce que c'est moi ? Est-ce que j'ai mal fait ?
Et ça, c'est un grand classique des écoles privées qui culpabilisent les parents. C'est assez classique, ça.
Vous voyez, puis j'avais même à ce moment-là mes parents qui étaient... mes parents étaient là, donc mes parents ont 75 ans. Et je leur ai dit, franchement, dites-moi, ils ne l'avaient pas vu le matin parce qu'elle part très tôt. J'ai dit, dites-moi, est-ce que vous trouvez que sa tenue... Eh bien non, ça ne les a pas choqués. Donc moi, là, où je m'interroge, c'est que moi, je suis d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale. Il y a une tenue pour aller à l'école. On ne va pas à l'école comme on va à la plage. Bon, en habitant La Rochelle, je peux doublement en parler. Mais dans ces cas-là, qu'on nous dise clairement, bon, bah, les garçons, les shorts, c'est non. Les filles, eh bien, les débardeurs.
Ah non, mais ça, dans les écoles privées, il y a un règlement intérieur. Hein. Moi, j'ai vu pas de shorts. Là, je les ai lus souvent. Moi, pas de jeans déchirés, pas de tenue provocante, c'est déjà tenue provocante, c'est un peu plus subjectif, forcément.
Ouais,
mais pas effectivement de nombril qui doit être vu. Moi, j'ai vu des règlements intérieurs parfois. Évidemment, sur les chaussures, pas de tongs ou de choses comme ça.
Non.
Pas de shorts, bien
là,
sûr.
Là, en l'occurrence, non, il n'y a pas. En tout cas, je l'ai lu.
Mais c'est comme dans la vie professionnelle, il y a très peu de règlements intérieurs. Par exemple, à RTL, ici, je ne sais pas s'il y a un règlement intérieur pour les collaborateurs de l'entreprise. C'est une question, jusqu'ici, c'était une question de bon sens. Il n'y avait pas besoin de règlement intérieur pour dire aux gens, tu viens pas en short et en tong. Alors le jour où, effectivement, tous les collaborateurs arriveront en short et en tong, peut-être qu'il y aura un règlement intérieur. Il est 13h19, merci Isabelle.
Merci beaucoup.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur Air Pro. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 13h22, je vous rappelle qu'on pourra parler du Tour de France. Et Raphaël Vantard viendra d'ailleurs à 13h30. Oui. C'était son premier tour, vous l'avez entendu durant ces 3 semaines. Le Tour de France, une nouvelle fois attaqué par un élu Europe Écologie Les Verts. Jacques Bouteau, qui est adjoint à la mairie de Paris, centre. Il a créé la polémique tout le week-end. Il y a 35% de chômeurs. On va pas leur donner du boulot, on va leur faire regarder le Tour de France, a-t-il dit. Leur filer des goodies. Christian Prudhomme leur vend un spectacle. Ils restent dans leur canapé à rêver des exploits de type hyper dopé qui ne gagnent que parce qu'ils se font changer leur sang dans les cliniques. Voilà ce qu'a dit Jacques Bouteau. Donc ça fait réagir, Laurent.
Et on attend vos appels dès maintenant au 3210. On vient à l'école habillé d'une façon républicaine. C'est le message lancé ce matin sur RTL par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Alors habillé d'une façon républicaine, nous dit Patrice sur la page Facebook, bah, c'est un nouveau concept. Hein. Il y a des choses bien plus importantes à s'occuper. Pour Karen, il serait peut-être bon que tous les collégiens, les lycéens et même les élèves en primaire portent un uniforme. Plus de problèmes de nombril, de marques de vêtements. Allez, la blouse pour tout le monde, demande Jean-Luc. Et Ignace n'est pas étonné par la tenue de vacances de certains élèves. Le redoublement est quasiment interdit. Le bac est donné. Les profs régulièrement absents. C'est la nouvelle mentalité au 21e siècle.
Bah, l'histoire de l'uniforme, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'objectivement, c'est mettre tout le monde à égalité. Là, il n'y a plus de différence. Les riches, les pauvres, tout le monde est habillé de la même manière. Pascal, bonjour, qui habite Tours. Pascal avec un nœud.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à votre équipe et à tous les auditeurs.
Votre avis sur ce sujet et sur cet habit républicain, comme dit Jean-Michel Blanquer.
Je suis partagée. Je me dis qu'il faut savoir un petit peu les directives, déjà. Moi, j'ai mes enfants, bon, j'ai 35 ans maintenant, j'ai jamais eu de soucis avec eux, parce que bon... est-ce qu'il faut vraiment un uniforme ou pas? Je me pose la question, quoi. Parce que, à la limite, ça évite le racket, ça évite le harcèlement sexuel. Tout le monde va être habillé pareil.
Bah, c'est ce que je disais, effectivement. Il n'y a plus de différence entre ceux qui ont les moyens d'acheter.
Il y a beaucoup de... voilà.
Écoutez, je pense que l'uniforme en France a été supprimé il y a vraiment très longtemps dans l'école publique.
Oui, oui.
Dans l'école privée, je ne sais même pas si encore il y a des uniformes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des établissements? Sans doute, doit-il en rester.
Dans le privé, peut-être.
Peut-être dans le privé, mais effectivement, mais ça peut être une solution. Bon, vous avez pas de... Vous êtes choqué par la manière dont s'habillent parfois les jeunes gens?
Oui, parce que moi, ma fille, j'aurais une fille de 15 ans, je l'interdirais d'aller à l'école avec le nombril découvert, quoi.
Mais ce que vous venez de dire et me paraît tellement évident que c'est aussi la responsabilité des parents.
Ben, je pense, voilà,
c'est quand même aux parents.
Non, moi, il y a des choses que j'ai achetées à ma fille pour l'été. Même il y a, bon, elle a 35 ans maintenant, elle est de 85. Hein. Mais je veux dire, j'achetais des choses pour l'été, des choses qu'elle ne mettait pas à l'école. Là.
Ben, évidemment, c'est
en tant
ça.
Que parent,
évidemment.
J'avais une responsabilité.
Mais évidemment, mais je suis d'accord avec vous, mais parfois on marche sur la tête. Évidemment que c'est des parents. Alors, attention, 13 ans, c'est pas 14... Enfin, disons que 13 ans et 14 ans, c'est un âge. 15 ans, 16 ans, c'est encore un autre âge. Et 17, 18, c'est encore un autre âge.
Mais
même si à ces âges-là, il y a aussi beaucoup de différences.
Mais il y a 30 ans, c'est plus 16, 17 ans. Parce qu'on suivait les parents. Maintenant, à 16 ans, on ne suit plus les parents.
C'est vrai que. Alors, ça dépend des familles. Hein. On me fait passer un petit message. L'école privée Saint-Germain-en-Laye, Institut Notre-Dame, polo de l'Institut le vendredi uniquement. Et autrement, je ne sais pas, les autres jours, manifestement, on a le droit de s'habiller comme on veut. Bon, bah, merci Pascal. Merci beaucoup.
C'est ce que j'avais à dire.
Merci. Dernier témoignage, peut-être, avant de parler de la chasse à cour, parce que ça, c'est aussi un sujet qui a fait causer. Comme on dit. Est-ce que Caroline est là? Non, c'est Sabrine. Sabrine. Sabrine ou Sabrina?
Sabrine.
Alors écoutez, bonjour Sabrine. Vous êtes dans
Bonjour. Oui, c'est ça.
Vous serez la dernière auditeur ou auditrice sur la tenue républicaine. C'est quoi une tenue républicaine pour vous?
Je ne sais pas trop, mais j'ai eu un très grand sourire en entendant cette chose-là après coup. En fait, j'ai tout de suite pensé à la liberté guidant le peuple avec cette femme à la poitrine opulente et au décolleté. Et voilà, et je trouvais ça très drôle. Je me suis dit, est-ce que c'est ça la tenue républicaine finalement?
Et votre réponse?
Ben, je ne sais pas, mais bon, il faut laisser un peu vivre nos adolescents, il y a des problèmes plus graves. Et puis on s'est encore focalisé une fois sur les filles. Or, je ne sais pas, il y a des garçons qui viennent à l'école avec des tongs, avec des caleçons.
Il y a des garçons qui vont avec des tongs à l'école?
Ah oui.
Mais vous trouvez ça bien, par exemple?
Non, je ne crois pas que ça soit adapté.
Je ne crois pas que c'est adapté non plus.
Mais on a aussi de jeunes garçons qui ont le slip qui dépasse de 20 cm du pantalon. Bon, alors là, on n'en parle pas vraiment. Enfin, on s'attache toujours aux jeunes filles. Je trouve ça un petit peu lourd.
Finalement. Elle a quel âge, votre fille?
Elle a 17 ans, vient d'avoir ses 17 ans.
Bon, elle s'habille comme elle veut?
Oui, mais on a réussi à, je pense, poser des limites assez tôt sur ce qu'on peut mettre à l'école et ce qu'on ne peut pas mettre. Et du coup, ça fonctionne très bien.
Et par exemple, nombril à l'air ou pas nombril à l'air pour votre fille à l'école?
Pas nombril à l'air.
Nombril à l'air, oui.
Non, non, pas nombril à l'air.
Pas nombril à l'air. Là, donc, si vous la voyez partir le matin avec le nombril à l'air, vous lui diriez, c'est pas adapté.
C'est pas adapté, mais bon, jusqu'à présent, elle n'a pas eu l'idée de le faire. Alors, c'est qu'elle sait que, voilà, ça se passe pas comme ça.
Bon, en même temps, il faut mieux la mode impudique que la mode pudique, comme dit l'autre.
Oui. Et puis bon, bah, ils sont jeunes. Alors, voilà, c'est peut-être le moment de laisser les corps parler aussi. On va pas leur mettre une camisole et les enfermer.
Non, mais vous avez raison. Et puis, 17 ans, c'est pas 12 ans ou 13 ans. C'est pour ça que tout est affaire de nuance. 17 ans, c'est... voilà, elle est quasiment majeure et...
Exactement, oui.
Eh bien, écoutez, ça me paraît des paroles de bon sens, si tant est que ce mot soit encore utilisable aujourd'hui. Merci Sabrine. Merci beaucoup. On va marquer une pause. Alors, est-ce que Raphaël Vantard va être là avec son vélo? Il est là! Il est là, Raphaël! De retour. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL, Tour de France 2020.
Raphaël Vantard.
Et il est avec nous, Raphaël Vantard. Quand j'étais enfant, le jour le plus triste, c'était le 25 décembre pour moi, parce que le 24 était passé. Ben là, c'est pareil, c'est The Day After, le Tour de France. Et j'ai demandé à Raphaël de venir, parce que vous l'avez entendu tous les jours, Raphaël, sur l'antenne d'RTL. Et c'était votre premier Tour de France. Et j'ai vu vos tweets, j'ai vu aussi ce que vous avez dit à l'antenne, et j'ai vu votre enthousiasme. Et je me disais, mais il triche un peu sur son enthousiasme, il fait comme si c'était absolument formidable, ou il est vraiment sincère, il vit un moment tout à fait exceptionnel.
Non, c'est un moment assez exceptionnel en fait. Moi, ça fait des années que je rêvais de faire ce Tour de France là. J'allais le voir quand j'étais petit. C'est un peu une des manifestations qui m'a poussé à être journaliste. Donc forcément, quand vous êtes dedans, il y a le petit pincement au cœur au départ et puis à l'arrivée. Au milieu, on est dans la turbine. Donc voilà, on essaie d'être le plus concentré possible parce que ça va très vite, c'est très intense. Mais au bout, ouais, il y a un plaisir intense.
Et cette fraîcheur, cet enthousiasme passé à l'antenne, je trouvais, en vous écoutant, on était content de vous écouter précisément parce que vous aviez du plaisir. Et donc, quand on a du plaisir, ben on le transmet.
À 36 ans, j'avais l'impression d'en avoir 12. Ouais. Je pense que je me suis beaucoup reconnu dans les gamins que je voyais sur le bord de la route. Il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants puisque la plupart des établissements étaient fermés sur la route pour des questions logistiques. Et à chaque fois qu'on le pouvait, avec Jérôme Cavert, le motard, ou avec Alain Risseau, le chauffeur de la voiture, on faisait coucou, on s'arrêtait pour parler à ces gens-là, à ces gamins-là. Et je me suis beaucoup reconnu en eux, à attendre des heures la caravane et puis à attendre des heures aussi pour voir juste passer 30 secondes les coureurs, quoi.
Vous avez été surpris de votre propre plaisir ?
Non, parce que je savais que ça serait un moment très fort. Après, je pensais pas que ça serait aussi intense professionnellement. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de missions un peu compliquées, voilà. Mais les missions compliquées, elles sont sur un temps plus réduit. Là, c'est 3 semaines, c'est une vraie course d'endurance quand même.
Alors, vous êtes reporter, grand reporter. Effectivement, vous n'êtes pas au sport, vous n'êtes pas dans le service de Christian Olivier. Donc, c'était une première pour vous. On pense d'ailleurs à Christian Olivier qui a pas fait pour la première fois ce tour depuis des années. Vous étiez avec Nicolas Georgerot. Oh, avec Christophe Paco, qui nous écoute peut-être. Vous êtes fatigué, là, par exemple, au bout de 3 semaines?
Non, là, je ne suis pas encore fatigué. Oui, je suis encore sur la phase un peu perché, comme en fin de quelque chose d'intense qu'on vient de vivre. C'est les jours prochains qui vont être un petit peu difficiles. C'est, voilà. Et pour faire l'analogie avec quand on est môme, je pense que c'est un peu la fin des vacances et de la colonie de vacances. Là, il va falloir revenir à la réalité.
C'était ça qui était terrible, c'est que quand le Tour de France s'arrêtait, c'était l'été qui était terminé, alors que généralement le Tour de France se termine le 22 juillet, il reste quand même un mois et demi, mais c'est symbolique. Merci Raphaël, on voulait d'abord vous faire écouter ça. L'arrivée, c'était vendredi avec vous au micro.
Il a fait le même coup qu'à Lyon, il est parti à quelques kilomètres de l'arrivée, il a faussé compagnie à tout le monde et là il lève les bras à Søren Craig Andersen, deuxième victoire sur ce Tour de France, il fait le signe 2 et il s'impose magnifiquement dans une étape qui n'était pas forcément pour lui, qui était plutôt pour les sprinteurs qui sont d'ailleurs en train d'arriver.
Ils arrivent avec le maillot vert qui va le conserver jusqu'à Paris maintenant, c'est une évidence, le coéquipier de Julien Alaphilippe, Sam Bennett qui a été embêté.
Et la voix de Christophe Paco bien sûr pour terminer, merci Raphaël Vantard, c'était vraiment une promesse qu'on s'était fait que vous veniez nous dire bonjour dans cette émission. Bravo à vous, c'était un plaisir de vous entendre pendant ces 3 semaines avec toute l'équipe.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La publicité dans une seconde, mais avant, je voulais quand même introduire le prochain débat, la chasse à cour. Samedi, lors d'une chasse à cour en forêt de Compiègne, un cerf, alors traqué à bout de souffle, s'est réfugié en ville, près d'un chantier de construction. La police a alors établi un périmètre de sécurité autour de l'animal pour le protéger. Et il a été gracié et a pu regagner la forêt. Vous avez peut-être vu ces images d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Faut-il interdire la chasse à cour ? A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Peu d'ironie, cher Grégory Caradani.
Je tente de produire l'émission au mieux.
On va faire un petit débat entre Monica et Nicole. Nicole, bonjour.
Bonjour
Nicole est
Pascal.
Pour la chasse à cour. C'est d'accord. Un animal qui ruse, dites-vous. Et Monica est contre. Elle dit c'est inhumain. Donc oui. Je donne d'abord la parole à Nicole que je salue. Bonjour Nicole.
Bonjour Pascal.
Pourquoi êtes-vous pour ?
Je suis parce que j'étais contre pour commencer.
Ah, ça c'est une bonne réponse, mais bon, c'est une curieuse réponse.
En fait, en 1967, mon mari, mon futur mari m'a emmené suivre des chasses à cour. J'étais contre la chasse à cour. J'étais une fille de la ville, je ne connaissais rien. D'abord, je pensais que ça n'existait plus. Donc, il m'a emmené faire suivre des chasses à cour parce que tout le monde peut suivre une chasse à cour. Et donc là, j'ai claqué les portières, je faisais du bruit, j'étais contre. Puis au fur et à mesure que le temps passait qu'il m'a emmené, j'ai compris un peu comment ça se passait. J'ai vu des animaux faire des ruses contrer les chiens et j'ai trouvé ça passionnant.
Voilà. D'accord. Mais donc l'argument qui justifie pour vous la chasse à cour, c'est que l'animal soit rusé.
L'animal, il a ses chances. Beaucoup plus à la chasse à cour qu'à la chasse à tir.
N'importe quoi.
Bah, on a rarement vu quand même une biche ou un cerf tuer un chasseur.
et puis de toute façon, on ne chasse pas les biches, on chasse que les cerfs.
Bon, Monica vous répond. Oui. Monica, que je salue, qui habite Paris. Oui. Monica, bonjour. Oui.
Bonjour Pascal, très honorée.
Je vous en prie.
Bon, je réagis parce que c'est le lapin qui a tué un chasseur, quoi. Moi, je suis contre la chasse à cour, parce que je l'ai vu, je l'ai plutôt entendu, et je ne sais pas si je peux vous raconter ce qui a déclenché ma colère. Il était une fois, il y a 40 ans, c'était un jour de septembre, parisiens, nous étions partis installés dans les Landes. Et on avait la chance d'avoir un petit portail du jardin qui donnait sur la forêt. Et j'étais en train de donner à manger à mon bébé qui était dans sa chaise haute. Et puis j'ai entendu une jeune fille qui pleurait au fond du jardin. Et j'ai entendu de loin et elle pleurait. Je me suis donc précipitée vers ce portail pour aider cette jeune fille. Et cette jeune fille, c'était une biche. C'était une biche ensanglantée.
Oh, mais c'est Bambi, votre histoire ?
Oui, mais c'est vrai, Pascal.
Ah oui, mais j'en suis sûr que c'est vrai, mais c'est Bambi.
Oui, c'est Bambi.
Moi, je ne me suis pas remis de la mort de Bambi.
Les biches pleurent comme des femmes. D'ailleurs, si on parle, souvent on dit à une femme, « Oh, ma biche, c'est de funeste. Ma biche. »
Ça, vous êtes contre la chasse à cour ?
Oh, plutôt.
Ouais.
Ah, plutôt, parce que c'est une chasse de classe, c'est un luxe cruel, sanguinaire, complètement arriéré, et pour se procurer un plaisir, alors plaisir, satisfaction immédiate et pulsion, quelles qu'en soient les conséquences ultérieures.
Bon, c'est vrai que tel que vous racontez Bambi ou la petite biche que tout le monde poursuit avec des chiens, en plus les chiens comme ils sont dressés, c'est vraiment horrible.
Derrière elle, il y avait 30 chiens, une trentaine de chiens qu'on appelle des bègles. Hein. Ce sont des espèces de gros rats, là.
C'est des petits chiens.
Des
petits chiens de chasse.
Ouais, ben moi j'appelle ça des gros rats, hein, noirs et blancs, là. Bon. Alors, ils venaient, je peux en parler parce que maintenant, ça fait 40 ans, donc je peux en parler, il y a prescription. Ils venaient de chez Folliguette, qui était un dresseur de chiens. Ils aboyaient comme des malades. Et puis ensuite, à la curée, il faut même pas s'imaginer. Et non, il faut arrêter. Ça sert à rien. Cette chasse.
Bon, Nicole, ça sert à rien la chasse à cour.
C'est une minorité.
N'importe qui peut suivre une chasse à cour, madame. Alors que si vous allez une chasse à tir, vous êtes contre toute chasse de toute façon.
Ah bah toute manière, oui.
Voilà. Donc déjà, c'est une chose.
Donc, la chasse à cour, n'importe quelle personne peut suivre une chasse à cour. Même si vous n'êtes pas obligé de faire partie d'un équipage.
Oui, mais ça je sais, mais quel est l'intérêt de suivre une chasse à cour? Mais quel est l'intérêt de tuer une biche?
D'abord, on ne tue pas des biches, on tue des cerfs. Ah ben non, je suis désolée, madame. La chasse à cour tue des cerfs.
Eh bien alors, quel est l'intérêt de tuer un cerf?
Bah madame, de toute façon, pourquoi à la fin de la chasse, la viande est distribuée aux gens qui sont là?
Non, pas aux gens, aux chiens. Ah bah, c'est la curée, ça s'appelle
alors,
la curée.
Alors attendez, non, la curée, ce sont les tripes qui sont données aux chiens.
Oui, oui, voilà,
mais la viande, je suis désolée madame, la viande est distribuée aux gens qui suivent. N'importe qui peut avoir un morceau de viande s'il connaît bien le piqueux.
Oui, oui.
Eh oui, bon, moi j'ai mangé du cerf.
Oui, bah, tant mieux pour vous.
Et c'est très bon.
Voilà. Vous avez des cornes maintenant?
D'abord, on a des bois quand on est un cerf. On n'a pas des cornes.
Oui, oui, je sais. Bah, à propos des bois. Hein,
oui.
Ces persécuteurs, je les appelle comme ça, quoi. Oui. Alors, l'hiver, devant leur cheminée, en fumant leur partagas, ils contemplent les bois qui sont accrochés au-dessus de la cheminée. Les cornes du chevreuil, au-dessus de la cheminée. Hein,
oui.
Et les cornes de leur femme, ils les mettent où? Au-dessus de leur lit?
Mais ils sont pas systématiquement cocus, madame.
Non, mais enfin, écoutez,
attendez.
J'ai l'impression qu'on s'écarte un peu. Si vous me permettez, moi, ça me fait rire, votre conversation, j'ai l'impression que c'est pas exactement le...
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de nombreux animaux qui sont chassés plusieurs fois et qui ne sont pas pris. Parce qu'un cerf qui ruse bien, il envoie éventuellement, il rentre dans une harde, il met d'autres cerfs à sa place, et les chiens sont complètement perdus. Puisque
Nicole et Monica, pour détendre l'atmosphère, je vais vous faire écouter ça.
Ma biche, je peux tout vous expliquer.
Ben voilà.
Donc voilà, mais de toute façon, c'est des dialogues impossibles entre chasseurs et anti-chasseurs.
En plus, on fait une lutte de classe. On dit que c'est les gens très riches qui chassent. Bah oui.
Ah, c'est pas les plus pauvres, entendons-nous bien. Moi, je connais des gens qui font de la chasse à cour. Généralement, c'est un certain milieu. Et quand on est invité à la chasse.
Je connais aussi des ouvriers qui chassent en forêt.
Oui, il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce, comme dit Jean Gabin dans Le Président.
Mais ça coûte pas plus cher que quelqu'un qui chasse à tir.
Non, mais peut-être, mais souvent, lorsque d'ailleurs les chasses présidentielles, c'était ça, c'est une manière de se rencontrer parfois.
Il y en a plus maintenant.
Oui, mais c'est une manière de, c'est un loisir qui est souvent réservé culturellement à une certaine catégorie de la population. Voilà.
Écoutez, quand vous voyez le nombre de personnes qui suit des chasses à cour, vous vous dites là, c'est pas...
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les chasses à cour en France, combien?
Bien sûr, je sais pas combien, mais moi quand j'allais en forêt...
Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... C'est pas si fréquent que ça, les chasses à cour.
Moi je me souviens de deux petites grand-mères qui suivaient la chasse à cour.
Parce qu'il faut être à cheval.
Mais non.
Ah bon?
Vous pouvez être à pied, en voiture, en vélo pour suivre une chasse à cour.
En vélo?
Bien sûr.
Ah bon?
Il y a plein de gens qui...
Dans la forêt, c'est des vélos.
Vous bloquez, madame.
Mais pardon,
c'est parce que vous n'y connaissez rien.
En trottinette, elle a dit la dame. S'il vous plaît, pas de mauvais esprit.
On suit une chasse à cour aussi au bruit. On sait que l'animal va ruser, il va revenir par tel endroit. Si vous voulez. Il faut une certaine connaissance aussi.
J'entends bien, mais c'est vrai que de toute façon.
Quand on n'y connaît rien, on
ruser avec 30 chiens derrière. J'entends bien.
Mais bon, moi je veux pas.
Madame, vous ne changerez pas d'avis, mais moi
non.
Ah non, surtout pas. Et j'ai peur que le jour de ma mort, je vois cette biche devant moi en train de saigner, en train de pleurer comme une
jeune.
De toute façon,
Vous a marqué, c'est Bambi.
Ça n'était pas une biche.
Ça m'a bouleversé.
Ça n'était pas une biche.
Ah bon, c'est quoi?
Ça ne pouvait être qu'un cerf. Eh oui, madame. Et vous savez qu'à un moment, les cerfs, ils perdent leur bois.
Bon, écoutez, madame, vous êtes adorable. J'ai 81 ans, je sais faire la différence entre une biche et un cerf.
Moi, j'ai 72 ans.
Oui, bah oui, bah,
je suis... Et bah moi, j'en ai 56.
La différence entre un cerf et une biche. Et je sais qu'un cerf aussi... Je sais aussi qu'un cerf qui perd ses bois à un moment et qui peut être chassé à ce moment-là.
On va vous laisser.
Alors que c'est une biche.
On va vous laisser.
Dans les Landes, on sait faire le distinguo quand même.
Nicole, je vais donner le numéro de téléphone de Monica. Et Monica, je vais vous donner donner le numéro de Nicole, comme ça vous allez pouvoir.
Non, merci. Bon, j'ai pas envie de lui parler.
Bon, allez, on pourra pas vous réconcilier. On va marquer une petite pause.
Mais il faut être tolérant pour tout le monde.
Voilà. Nicole et Monica, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Notre débat entre 14h et 14h30. Peut-on véritablement parler de seconde vague? Quelle est la réalité du terrain? Est-ce qu'on est dans une situation critique? On sera avec Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Et nous serons avec le docteur Martin Blachier, qui est épidémiologiste. Parce que sur le terme de seconde vague, tout le monde n'est pas d'accord. On va terminer peut-être avec la chasse, parce que la chasse, ça fait. Alors, vous mettez. Une pièce dans la machine et la chasse, ça fait réagir tout le monde. Françoise, bonjour.
Françoise vient de raccrocher parce qu'on la rappelle tout de suite.
Ah, Françoise a raccroché. Bon. Est-ce que Louis est là? Bonjour. Ah, Louis qui est chasseur.
Oui, bonjour.
Vous écoutiez le petit débat entre Monica et Nicole. Bonjour, Louis.
Bonjour. Merci de me donner la parole. Je voulais essayer de relever un peu le débat, puisque là, le débat qu'on a entendu précédemment, nous parlait de biches ensanglantées. Déjà, en vénerie, on chasse différents animaux. Il n'y a pas que le cerf, déjà. Il y a le lapin, le lièvre, le renard, le sanglier.
Non, on parlait de la chasse à cour. Il n'y a pas de chasse à cour pour les lapins.
Si. Il y a tout type de chasse, oui. Il y a des chasses à cour qui se pratiquent à
pour les lapins.
Oui, bien sûr.
Oh, bah le pauvre petit lapin, vous lui courez avec des chiens et
On a des races de chiens spécifiques, des bassets, qui sont des petits chiens, qui sont donc des chiens adaptés à ce type de chasse. Mmh. Voilà, mais bon, pour revenir au débat, on ne chasse pas les biches, on chasse les cerfs uniquement. Donc
la
discussion précédente était un peu faussée. Voilà, donc moi j'ai découvert la chasse à cour enfant, et donc j'ai pu apprendre le matin à faire le bois avec les personnes qui font le bois le matin, c'est-à-dire essayer de trouver les traces des animaux. Donc ça
s'appelle faire le bois, ça.
Faire le bois, tout à fait. Ça commence à 7h30 le matin et donc on prend un chien et on essaye de trouver les traces ou les odeurs des animaux rentrant et sortant pour préparer la journée de chasse qui va se passer. Voilà, ensuite on monte à cheval ou à pied pour la vénerie à pied, puisque la vénerie du cerf par exemple ne représente que 10% des chasses à cour. Hein. Donc on en parle beaucoup de la vénerie du cerf, mais il y a tous les autres types de chasses à cour. Voilà, qui se pratique à pied. Donc quand on dit que c'est une chasse aristocratique, en réalité, la vénerie à pied dont on ne parle pas se pratique par tout type de bourse. On a des gens qui font partie de petites associations, qui sont une dizaine de personnes, qui chassent par exemple le lièvre ou le renard, et qui déboursent entre 150 et 300 euros par an pour ces chasses-là. Donc il y a tout type de milieux sociaux, et il n'y a pas que la chasse à cour du cerf qui existe aujourd'hui.
Non, mais elle est symbolique, ce petit cerf qui vient mourir. C'est Bambi, tout le monde a vu Bambi, c'est ça. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand t'es enfant, peut-être que ton cœur est plus tendre, mais tu n'as pas envie que Bambi meure.
Figurez-vous que j'emmène ma petite fille à chasse à cour. Oui. Mais bon, elle a une vision différente, mais je lui explique les choses. Et ce qui nous intéresse, nous, à la chasse, c'est le travail des chiens en particulier.
Oui, ça vous intéresse toujours, ça vous intéresse. Mais pourquoi vous tuez alors? Parce que vous pourriez faire le même travail des chiens sans tuer, c'est ça qui m'amuse toujours. Tous les chasseurs que j'ai toujours durant l'émission, ils disent vous savez ce que j'aime moi surtout, c'est la nature. Hein,
Faites-le.
Alors vous partez les mains dans les poches et puis vous ferez la même job.
Mais c'est les chiens qui chassent aujourd'hui. Quand il arrive qu'un animal est prélevé, c'est-à-dire une fois sur quatre à la chasse à cour, il y a trois journées sur quatre qui se passent sans prise. Et c'est pas pour ça qu'on passe des mauvaises journées.
Les mots ont toujours un sens. Maintenant vous dites prélevé. Parce que vous avez tellement peur du mot mort, vous dites prélever.
Non, moi j'ai pas peur.
Comme si c'était plus doux.
La mort fait partie de la vie. Mais c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on parle plus de mort. Même on sort complètement la mort de la vie de tous les jours, mais c'est partie de la vie. Donc moi j'ai pas honte, non. De temps en temps, on tue un animal si vous.
Bah merci Louis. C'était intéressant en tout cas de vous écouter, puis d'entendre tous les points de vue. J'ai pas le temps malheureusement avec Françoise. Parce qu'il est à 13h55 et Laurent Tessier va nous donner le programme. Peut-on véritablement parler de seconde vague? On est d'accord, c'est le mot seconde vague, parce qu'il est anxiogène, le mot seconde vague. Donc s'il y a une seconde vague, faut le dire. Mais s'il n'y a pas de seconde vague, faut pas dire qu'il y a une seconde vague.
La seconde vague, hélas, c'est une petite musique qui revient depuis quelques jours.
Face à la deuxième vague, l'actualité aujourd'hui, ce sont de nouvelles restrictions.
Pour le SAMU urgence, la deuxième vague est déjà là. Les soignants se remettaient à peine de la première.
La France a enregistré hier plus de 10 500 nouveaux cas de Covid-19. Dernier bilan de Santé publique France, on est à un peu plus de 450 000 cas confirmés dans le pays. Et si l'on regarde le taux de positivité des tests, il est de 5,7%. Il a augmenté pour la deuxième journée d'affilée. François Braun est le président de SAMU Urgence de France. Aujourd'hui, il est inquiet et n'hésite pas à parler de seconde vague.
Ça me préoccupe parce que oui, on commence à arriver à flux tendu. Il faut surveiller ça de très très près. Surtout ce qui est déprimant, c'est de voir revenir ces mauvaises habitudes et ces difficultés de trouver des lits pour hospitaliser les patients qui arrivent aux urgences.
55 départements sont classés en zone rouge et une circulation active du virus. Un exemple en Île-de-France, 20% des lits de réanimation de la région sont occupés par des patients avec la Covid-19. Mais pour Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes, invité ce matin de nos confrères de CNews, il n'y a pas de seconde vague.
Chaque fois, on a cru qu'il s'agissait du départ d'une deuxième vague. Pour l'instant, nous sommes à 12 décès seulement hier. On voit que la seule vague que la France a connue est celle du printemps. Hier, le monde a connu 3722 décès par Covid. 3722 alors que nous étions à 10 000 décès le 23 juillet.
Jean-François Toussaint parle d'une phase de décroissance de la pathologie. Alors, est-on trop alarmiste ? Peut-on véritablement parler d'une seconde vague ? Est-on en train d'exagérer ? Va-t-on trop loin ? Est-ce la réalité du terrain ? Avec nous, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, et le docteur Martin Blachier, médecin épidémiologiste.
Ça va être passionnant ce débat. Il est donc 13h57. Merci à tous de rester avec nous. Le flash de 14h, bien évidemment. Je salue Greg Caranoni, mais aussi toute l'équipe des auditeurs qui est présent, c'est-à-dire Evan, Cyranouche,
bien sûr, Olivier,
bien évidemment, Rachel. Et on se retrouve dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le rappel des titres avec Aude Vernuccio.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. 10 500 cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. Le ministre de la Santé annonce à l'instant l'ouverture de nouveaux centres de dépistage sur l'ensemble des territoires où le délai d'attente est long. 20 centres seront créés en Île-de-France. La ville de Lyon doit annoncer de nouvelles restrictions dans moins d'une heure. En revanche, dans les écoles, le protocole est assoupli dès demain partout. Il faudra 3-4 Covid pour fermer une classe de maternelle ou d'élémentaire. L'Académie de médecine recommande de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour les personnels de santé. Objectif, éviter la saturation dans les hôpitaux et le manque de personnel cet hiver. Médecins et infirmières seraient encore plus exposés que la population. Ce drame à Istres dans les Bouches-du-Rhône, ce matin, on l'apprend il y a quelques minutes, un septuagénaire attaqué et grièvement blessé par 3 chiens pendant son jogging, 2 staffs et un pitbull. Un automobiliste a écrasé volontairement l'un des animaux pour sauver la victime. Son pronostic vital est engagé. 2 personnes toujours portées disparues à Pont-d'Hérault après les orages. Les recherches ont repris ce matin avec des sauveteurs en eau vive. Peut-on sauver le site Bridgestone à Béthune ? 863 emplois sont menacés par la fermeture annoncée de l'usine. 2 ministres, dont Elisabeth Borne, se rendent sur place pour discuter avec les élus, la direction et les salariés. Comme. La météo à présent, des pluies et des orages dans le sud du pays, sauf pour le Roussillon et la Provence, où il y aura des éclaircies. Plus au nord, journée ensoleillée, quelques averses prévues en Bretagne, dans les pays de la Loire et la Basse-Normandie. Côté température, comptez de 20 à 30 degrés en moyenne. Et puis les courses à Cran en Mayenne, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 8, le 11, l'As, le 13, le 2, le 6, le 14 et sa dernière minute, le 11. Here comes summer.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Si vous suivez l'actualité, vous connaissez forcément leur visage, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup intervenu ces derniers temps sur les antennes. Christophe Prudhomme, vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour. Et bonjour. Le docteur Martin Blachier, vous êtes médecin épidémiologiste. Bonjour. Donc, bonjour. Notre première question, et puis après, forcément, on pourra élargir. Est-ce qu'on peut véritablement parler de seconde vague? Parce que ce mot, cette terminologie est importante. Parce que s'il y a seconde vague, ben, ça nous replace au printemps, c'est un terme anxiogène. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une facilité de langage? Martin Blachier.
Alors, il y a eu une première vague qui a été extrêmement haute et pointue. Vous imaginez comme si c'était une montagne, l'Everest, un pic montagneux. Ça, c'était ce qui s'est passé en mars-avril. Et là, et le confinement a fait que ça a totalement disparu. Il n'y avait même plus de virus dans l'eau. Après, ça remontait tout doucement, et là, ça recommence à remonter un petit peu plus fort. Donc, on est plutôt sur une colline. Voilà. Donc, je veux dire, on a eu l'Everest en mars-avril, et là, on serait plutôt sur une colline en septembre. Donc, après, quand vous regardez une courbe, ça monte une fois en mars-avril, et ça remonte maintenant. Donc, vous pouvez quand même dire que dans l'inconscient collectif, c'est ça une vague. Donc, ce serait plutôt une vaguelette par rapport à ce qui s'est passé en mars-avril, mais il ne se passe pas exactement ce qui se passait en mai, en juin ou en juillet. On a effectivement une reprise épidémique, et si on ne fait rien, ça peut tout à fait se passer comme mars-avril.
Oui, mais Catherine Hill, qui est épidémiologiste comme vous, dit dans 4 semaines, on est dans le même état que le 15 mars. Et elle était avec ses chiffres, ses diagrammes, et elle le disait sur une antenne, je crois que c'était sur CNews, sur BFM ce matin.
Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'en ce moment, on a une stagnation de la circulation virale. On doit avoir un R0 qui est à peu près autour de 1. On voit que le taux de positivité, ça fait une semaine qu'il est stable. Là, il augmente un tout petit peu, mais il faut faire attention parce qu'on est en train de prioriser les tests. Donc, si vous priorisez les tests, vous avez un taux de positivité qui va remonter artificiellement. Donc, c'est très difficile, en fait, d'interpréter les chiffres aujourd'hui.
Mais c'est ça qui est... Alors, nous, on est démunis. Comment une épidémiologiste comme vous, Catherine Hill, dit une chose différente de vous? C'est pas mathématique, scientifique?
Non, c'est pas mathématique. C'est absolument pas mathématique.
Christophe
nous travaillons sur des hypothèses. Donc, il faut toujours envisager toutes les hypothèses. De la pire à celle qui est la plus rassurante. Pour l'instant, sur toutes les épidémies, quand même, pour être rassurant pour les auditeurs, toutes les hypothèses catastrophiques se sont avérées fausses. On les a toutes envisagées, Ebola, etc. Enfin bref. Bon, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que on a une remontée en pente relativement douce du nombre de cas. Mais la question, c'est même si c'est une pente douce, si elle dure, à la sortie, ça fait un nombre de malades important. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la querelle sémantique, c'est que alors que nous avons un nombre de malades assez limité hein, pour l'instant, il n'y a pas, c'est pas la vague de malades qu'on a. Rien n'a été fait alors que nous avons eu 4 mois de répit pour augmenter les capacités hospitalières, alors qu'on savait. On ne savait pas la date, mais on savait que le nombre de malades allait augmenter.
Mais on a augmenté en réanimation.
Absolument
on est passé
pas.
De 6 000 à 12 000.
Mais non.
Mais pourquoi on dit ces chiffres-là?
Parce que le ministre ment. Je vous le dis clairement. Nous sommes toujours à 5 500 lits de réanimation. C'est-à-dire que l'erreur qui a été faite, c'est de ne pas maintenir ouvertes des capacités d'hospitalisation en réanimation, alors que la crise avait montré que nous étions sous-lotés par rapport à un certain nombre de pays.
Mais durant la crise, on était à combien en mars-avril en lits de réanimation?
On était à 12 000 et on est redescendu en juin, enfin mai, mai-juin à 5 500.
Mais est-ce qu'il y a possibilité de revenir à 12 000?
Eh bien, c'est très compliqué parce que le faire dans l'urgence, alors que les personnels qu'on avait formés, qui étaient volontaires, sont repartis dans leur service, il faut les récupérer, il faut réarmer les lits. On n'a pas commandé les bons respirateurs, les fameux respirateurs qui ont été fabriqués par le groupement Air Liquide, Schneider, Thales, sont des respirateurs qui sont des respirateurs pour les urgentistes et pas pour les réanimateurs. Donc, on a des problèmes d'organisation aujourd'hui. On a essentiellement des problèmes d'organisation. On voit bien que ce soit sur les tests ou sur les capacités hospitalières. Et après, on a effectivement une remontée du nombre de malades qui était complètement prévisible. Ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'à quand on va avoir cette remontée. Ce qui est clair, c'est que les chiffres sont plutôt... sont pas particulièrement inquiétants. Je dirais pas rassurants, mais particulièrement inquiétants. Parce qu'effectivement, le taux de positivité reste relativement faible.
On rappelle ce qu'est le taux de positivité.
C'est le nombre de tests positifs sur 1000 personnes testées.
Aujourd'hui, on est à 5, c'est ça ?
Donc aujourd'hui, vous testez 100 personnes, vous avez entre 5 et 6 qui sont positives.
C'est ça. 5 et 6 qui sont positives. Ce qui est clair, c'est, vous voyez, j'étais de garde samedi, en Seine-Saint-Denis, donc un département, qui a été relativement fortement touché. Nous avons eu quelques malades, qui sont les mêmes malades que ceux que nous avions en mars-avril. Pour les plus graves, ce sont des gens âgés, avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies qui les rendent plus fragiles, obésité, diabète, hypertension. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui, on a quand même avancé. C'est-à-dire qu'on prend en charge les patients plus précocement. Nos techniques d'oxygénothérapie sont meilleures. On a des traitements qui sont quand même efficaces et qui évitent des complications. On n'a pas le traitement miracle, mais on donne des anticoagulants, ce qui évite des complications, hein, les embolies, et on donne des corticoïdes, un vieux médicament qui coûte pas cher et qui diminue quand même l'inflammation. C'est le seul médicament aujourd'hui, la dexaméthasone, un corticoïde, qui a prouvé son efficacité, et ça tombe bien parce que c'est un médicament qui coûte rien.
Bon, on va marquer peut-être une première pause, et les auditeurs ne sont pas évidemment absents de notre discussion. On pourra appeler Agnès tout de suite après la publicité. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Sylvia est là, est infirmière sur cette deuxième vague et on voulait l'entendre. Bonjour Sylvia.
Bonjour.
Vous écoutez notre débat, votre sentiment ?
Mon sentiment, c'est qu'en fait, je suis un petit peu partagée parce que je travaille dans un hôpital où on réouvre les services Covid et qu'on prend du personnel dans tous les autres services aux dépens des autres patients pour combler ce genre de, pour combler les services Covid. Et qu'en fait, j'ai l'impression que la population n'a pas compris qu'on est dans une période où vraiment tout est compliqué et que la Covid est vraiment là. Donc, ils oublient les masques, ils oublient tout ce qui est précaution, gestes barrières, et ils pensent que ça revient comme avant la pandémie de mars. Et que non, la Covid est encore là et que si on ne fait rien, eh ben, la nouvelle vague sera là.
Voilà. Merci de ce témoignage. Et c'est vrai que ça, c'est une question récurrente. Est-ce que nous sommes suffisamment disciplinés, Martin Blachier ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est dangereux de dire que la deuxième vague n'est pas là du tout, parce que ça laisse penser aux gens qu'on peut se relâcher et de toute façon, c'est terminé, que ça ne remontera jamais. Et c'est vrai que la pression du virus est encore là. Et comme je le disais récemment, il y a des pays où il n'y a aucune reprise épidémique. La Suède, l'Allemagne, la plupart des pays d'Asie, le Canada, aucune reprise épidémique. C'est-à-dire que c'est possible. Mais d'un autre côté, il y a des pays où il y a des sacrées reprises épidémiques. Israël, il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Iran à un moment, il y a eu les États-Unis sur les États du Sud. En fait, ça dépend entièrement de nos comportements. Et c'est vrai que la crise, s'il y a une crise, elle sera hospitalière. C'est-à-dire que le problème, ça va être des patients qui vont arriver et un système hospitalier qui va exploser en plein vol parce qu'il n'est pas prêt et il a surtout pas envie de vider ses lits de patients qui ont d'autres pathologies pour les patients Covid. Donc, et il y a un équilibre à trouver. Je pense que certains pays vont trop loin, même la Chine, je pense qu'ils vont un petit peu trop loin. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour maîtriser cette épidémie qui n'est pas si difficile à maîtriser. Mais il faut qu'on trouve cet équilibre. Et si on ne le trouve pas, on va être en difficulté et on fera comme les autres. On sera obligé de remettre des mesures draconiennes.
Il faut cibler les mesures. On voit bien qu'on ne peut pas imposer des mesures générales quand les gens ne sont pas convaincus qu'elles sont efficaces. Où sont les foyers aujourd'hui ? En entreprise et lors des réunions familiales. Mais absolument pas dans la rue quand on se croise. Enfin, voyez. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de cibler. Il faut modifier nos comportements sur les réunions familiales. Dans les entreprises, il faut être particulièrement vigilant parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont à risque, en particulier les entreprises du secteur sanitaire, médico-social. On l'a vu avec les abattoirs, enfin les entreprises où on est confiné dans un milieu peu ventilé, proche les uns des autres parce que c'est obligé. Hein. Mais on peut tout à fait cibler ces mesures et surtout arrêter de faire tout et n'importe quoi et dépenser de l'argent pour rien.
Ça,
vous voyez,
vrai.
Deux éléments. Là, les tests qui ont été faits depuis un mois, on a jeté de l'argent par les fenêtres. Première chose. Deuxième chose,
ouais,
j'ai été
moi,
outré.
Moi, vous me fascinez parce que c'est ce que vous me dites est en fait fascinant.
Mais oui, mais j'ai été outré par l'intervention du Premier ministre qui explique qu'il va créer des postes, il a dit, 2000 postes de contrôleurs dans les ARS et à l'assurance maladie. Alors que nous avons tous dit, nous les hospitaliers, que les ARS ne servaient à rien. Voilà, on va créer des postes dans les ARS, alors que les postes dont on a besoin aujourd'hui, c'est des postes pour ouvrir des lits à l'hôpital, pour s'occuper à la fois des patients classiques et des patients qui,
pourquoi
malheureusement,
parce que c'est une question uniquement politique.
Mais oui, parce
de
que
communication.
C'est-à-dire
que les tests, c'est fait pour rassurer les Français.
J'aimerais bien à un moment donné, et j'ai proposé dans une autre émission, que les politiques en particulier, Olivier Véran, acceptent non pas de faire des cours magistraux, mais un débat avec quelques contradicteurs en face de lui, ça serait peut-être intéressant. Parce que, d'abord, il n'y a pas une pensée unique médicale, vous l'avez cité tout à l'heure. Donc il y a des hypothèses différentes, donc il faut prendre en compte qu'il n'y a pas... Donc ce comité scientifique qui nous imposait une doxa, enfin c'était la vérité vraie, mais non, vous voyez, parce que si on veut équilibrer le discours, moi je pense que le président du comité scientifique a dit des choses justes, mais il a aussi dit des bêtises, comme M. Raoult a dit des choses justes et il a dit des bêtises.
Oui, mais
si on n'a pas cet équilibre-là, eh bien on est incompréhensible vis-à-vis de la population.
Je suis d'accord avec vous, mais on est... Je me mets à la place des gens qui nous écoutent pendant que vous parliez. Monsieur Blachier disait, c'est un scandale. C'est-à-dire que les thèses depuis un mois ne servent à rien et c'est un scandale.
Moi,
c'est ce
je trouve
que
c'est un scandale que l'État français dépense bientôt 2 milliards de tests PCR pour des gens qui veulent partir en vacances. C'est ça la réalité, c'est qu'on dépense 2 milliards d'euros pour des gens qui veulent partir en vacances, qui veulent aller à tel endroit, qui veulent partir dans les îles, c'est ça qui se passe. Il y a peut-être quelques pourcentages de patients qui ont réellement des symptômes, et quand vous écoutez les gens des laboratoires, c'est ce qu'ils vous disent. Et la plupart des tests sont des tests de convenance. Et il n'y a aucun tri qui est fait.
C'est-à-dire test de convenance.
Mais c'est-à-dire que je fais un test pour pouvoir aller à une réunion, pour pouvoir aller à un mariage, pour pouvoir aller à une fête.
C'est pas que de la convenance, parce qu'on vous oblige. Vous voulez prendre l'avion, y compris pour votre travail, on vous oblige à prendre le test. Vous avez été dans une réunion où il y a un cas positif, votre employeur vous oblige à vous tester. Oui. J'ai eu le cas hier d'un collègue qui m'a appelé parce qu'il ne trouvait pas de laboratoire, alors que son employeur l'obligeait à se faire tester alors qu'il était asymptomatique.
Mais pourquoi ce sera l'État de payer 2 milliards juste pour que des gens puissent circuler librement.
C'est la sécurité sociale. C'est les choix de stratégie qui font qu'on dépense de l'argent pour ça et qu'on n'a pas augmenté le nombre de lits de réanimation. C'est un choix qui est catastrophique.
Alors, il y a 593 personnes aujourd'hui qui sont en réanimation. 593. Donc vous dites qu'on peut aller jusqu'à 6000, mais à la limite...
Non, parce que le problème qu'il y a, c'est ces 593 là qu'on a maintenant, les quelques centaines qui ont augmenté là ces dernières semaines, nos réanimations étaient déjà pleines parce qu'on a repris l'activité normale de l'hôpital, y compris on avait un retard pour prendre en charge les malades qu'on a laissés à l'abandon pendant trois mois. Donc le problème c'est que depuis 15 ans, moi, en tant qu'urgentiste, je répète dans les médias, en tant que syndicaliste, que chaque hiver, chaque été, chaque long week-end, nous manquons de lits de réanimation en période normale. Donc dès qu'on a quelques dizaines de malades en plus dans des grandes métropoles, ça craque. C'est ça qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas dimensionné l'hôpital pour pouvoir accueillir une petite augmentation de patients qui risquent quand même de petite à devenir moyenne. On ne sait pas trop, mais un hôpital pour bien fonctionner... Vous voyez, ce qui est, on nous a vendu des gestionnaires de lits qui nous demandent d'occuper les lits en permanence à 100%, alors qu'on sait qu'un hôpital doit avoir en permanence 20 à 25% de lits libres pour pouvoir fonctionner et accueillir les patients d'un jour à l'autre dont le nombre est variable. Sauf qu'on a en face de nous des gens qui ont une calculette dans la tête. C'est ça le problème.
Bon, on va laisser passer une nouvelle page de publicité. Ce que j'ai du mal aussi à comprendre, c'est comment on n'arrive pas à se projeter. Pourquoi on ne peut pas dire dans 4 semaines c'est comme ça?
On ne peut pas dire ça parce qu'on ne sait pas comment les gens se comportent. Il n'y a aucune enquête sur le comportement des gens.
Si les gens se comportent comme ils se sont comportés sur les 4 dernières semaines.
Mais moi, je peux vous dire que j'ai fait des projections, et la projection, c'est que ce ne sera pas le scénario de Catherine Hill, et qu'on va plutôt avoir une petite vaguelette colline qui va redescendre par les mesures qui ont été prises réellement. Mais ce n'est que ma projection à moi.
Ah oui, mais c'est pour ça que vous êtes là.
Oui, tout à
moi,
fait.
J'attends votre expertise.
Je vous la livre.
Bon, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
14h20, pour tout vous dire, la discussion continue hors micro. On fait toujours intervenir, pourquoi pas, Dominique qui est là. Bonjour Dominique, vous nous écoutez. Qu'est-ce que vous pensez de cet échange entre M. Prud'homme et M. Blachier?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, bonjour. Moi, ce que je pense, effectivement, c'est que il y a un gros problème d'organisation et puis de tenue des lits, de maintenir des lits de réanimation et d'hôpitaux qui soient en nombre suffisant. Et cette crise-là, aujourd'hui, on la masque, en fin de compte, parce que moi, je peux pas comprendre aujourd'hui qu'on tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, alors que si je fais le calcul depuis le premier... Source Santé Publique France, hein, du 1er septembre au 18 septembre, donc des chiffres récents, on a aujourd'hui en décès un décès par jour pour 3 départements, donc c'est vraiment ridicule, parce que je vais vous rappeler quand même que le cancer en fait plus de 400 par jour, des maladies cardiovasculaires et les AVC en font pratiquement autant par jour, donc c'est ridicule, hein, c'est 1600 morts par jour en France. Hein. En réanimation, il est rentré un cas par jour pour 4 départements, Donc là aussi, c'est pas important. Par contre, ce que j'entendais un syndicaliste, je crois, dire à l'antenne que il y avait toujours un problème de réanimation. Et il se trouve que j'ai quelqu'un dans la famille qui travaille dans une grande ville où il y a plusieurs hôpitaux. Et dans cette ville-là, je la citerai pas pour pas gêner la personne que je connais, mais dans cette ville-là, tous les cas Covid ont été centralisés dans un hôpital. Donc le service de réanimation de cet hôpital est devenu saturé, alors que il y a d'autres lits dans d'autres hôpitaux de la ville et à proximité au département qui sont pratiquement vides. Alors il y a aussi une chose, si vous voulez, c'est que le gouvernement fait énormément peur. Parce que les tests, faut quand même se rappeler que même s'il y en a 5,5% ce week-end qui sont devenus positifs, ça veut dire qu'il y en a presque 95% qui sont négatifs. Donc ça, c'est pas très 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 important, en sachant que le coefficient d'application des tests fait qu'il y a énormément de faux positifs. En gros, il y aurait vraiment 10% de cas malades. Les autres seraient pas porteurs ou pas contagieux.
Je comprends, Dominique, effectivement. Et vous dites quelque chose qui m'interpelle. Vous dites que le gouvernement fait peur. Et c'est la discussion qu'on avait hors antenne. C'est l'œuf et la poule. Moi, j'ai le sentiment que les opinions publiques réclament aujourd'hui, et je le dis sans arrêt à ce micro depuis des semaines, réclament des mesures de toujours plus. Quand on fait les sondages, les gens demandent toujours plus de précautions, toujours plus de restrictions. Et que les politiques, ils sont obligés de suivre le mouvement. Et peut-être faudrait-il un peu plus de courage politique, ce qu'a dit Emmanuel Macron l'autre jour, lorsqu'il dit « apprenons à vivre avec le Covid ». Il va être là combien de temps, le Covid, Martin Blachier ?
Bon, il va probablement être là jusqu'à l'été prochain, minimum. Après, on espère qu'il y ait quelque chose qui sorte sur la prochaine année scolaire. Ça me paraît réaliste.
Mais vous pensez que les gens iront se faire vacciner ? Moi, je rencontre que des gens qui me disent « je ne me ferai jamais vacciner ».
C'est un vrai problème. Mais moi, je ne suis pas persuadé que ça viendra du vaccin. Il y a quand même pas mal de traitements en tant que tels qui sont à l'étude. 300 programmes. Je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose qui va sortir et qui marchera au moins un petit peu.
Le traitement, oui, on peut espérer. Mais les traitements sont longs. Hein. Contre les virus, on a vu le temps qu'il a fallu pour avoir un traitement à peu près efficace contre le VIH, hein, contre le virus du sida. Ça a été très long. Alors là, c'est vrai qu'on met beaucoup de moyens. Bon, mais ce qui est clair, c'est que oui, il y a un vrai problème de société. Parce que vous voyez, j'ai vu des photos qu'un collègue me montrait. 1969, hôpital de l'Hôtel Dieu. Il y a eu 35 000 morts. C'était aussi une grippe, la grippe d'Hong Kong. 35 000 morts en 6 semaines. Et on empilait les cadavres. Et personne n'en parlait parce qu'il y avait une autre acceptabilité vis-à-vis de la mort, en particulier la mort des personnes âgées, qu'aujourd'hui. Le principe de précaution à l'infini est effectivement parfois contre-productif. Et deuxième élément, qui est le changement dans notre société depuis quand même quelques décennies, où on a privilégié l'individualisme vis-à-vis du collectif. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est un vrai problème, et ça va poser un problème sur le vaccin, parce que le vaccin est un outil comme un autre, hein, qui a une efficacité. C'est quand même les vaccins sont les médicaments qui sont le plus grand progrès du XXe siècle. Donc là, le manque de confiance de la population vis-à-vis du gouvernement fait qu'aujourd'hui, 30 à 40% de la population dit refuser de vouloir se vacciner. Ça va être catastrophique.
Mais je pense que ce sera plus. Vous verrez que ce sera plus. Il nous reste deux ou trois minutes. Martin Blachier, vous imaginez, vous disiez tout à l'heure, une petite colline. Donc vos prospectives à vous, c'est de quelque chose qui pourrait vivre avec, sur ce rythme-là, par
exactement.
Exemple.
Je vais refaire l'histoire, ouais. Selon moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? En mars-avril, il y a une épidémie qui s'installe doucement depuis janvier. On n'a absolument rien vu venir. Et là, vous avez une cinétique exponentielle qui monte. On est obligé de tout fermer. Ça redescend automatiquement. Ensuite, vous avez un comité scientifique qui dit « Moi, j'ai une super idée. Je vais faire du testé tracé isolé parce que je suis persuadé que c'est ça qui a marché partout. » Mais il se dit « C'est excellent, testé tracé isolé. On fait ça, on peut tous revivre. Suffit de tester. » Sauf que ça marche pas. Donc l'épidémie repart comme si c'était jamais arrivé. Et là, elle remonte. Et on se dit « Ah ben non, on peut pas faire du testé tracé isolé, ça marche pas. Donc on va faire porter des masques et on va prendre des mesures barrières. » Ça marche. Sauf qu'on l'a pris le 1er septembre. Et comme les mesures, elles mettent une semaine à 10 jours à être efficaces, et ben ça met une semaine à 10 jours à stabiliser la reprise
premier
épidémique.
Quand même, parce que l'intervention d'Emmanuel Macron, elle date du 15 juillet sur les masques.
Oui, mais il y avait encore les entreprises, il y avait plein d'endroits où on pouvait encore ne pas porter de masque. Plus il y a eu les vacances, plus les fêtes privées.
Les vacances, donc, la circulation.
Ça a entraîné la reprise. Après, on a quand même mis un dispositif qui est quand même relativement costaud, là, en place. Et donc ça doit aller. Une circulation virale qui se stabilise et ça va s'arranger. Je ne crois pas du tout aux projections alarmistes comme celle de Catherine Hill ce matin sur BFM.
Bon, on ne peut pas croire aux projections alarmistes. Là, je suis d'accord avec vous. Par contre, moi, je suis inquiet sur la capacité de l'hôpital d'accueillir un nombre de malades, somme toute, modéré au regard de la tension permanente qui règne à l'hôpital et du manque de moyens, de personnel, de lits de réanimation.
Eh bien merci, vous étiez parfaits messieurs parce que vous n'étiez pas trop alarmiste, mais en même temps, il faut être lucide. Il ne faut pas être
raconter de salade. Si la situation est alarmiste, il faut le dire. Mais on a pu être rassurés en vous écoutant tous les deux. Le résultat du sondage avec l'ami Laurent Tessier et notre ami Flavie Flamand qui est là aujourd'hui avec nous dans le studio ou qui est à l'extérieur, Grégory ?
Elle vous le dira elle-même dans une seconde.
À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.